Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec le nouveau livre que nous allons lire à partir d'aujourd'hui, Les diaconesses de Reuilly, un germe fécond de Géry Messy. C'est aux éditions du Cerf. J'aimerais faire découvrir à certaines personnes d'entre vous, ceux qui suivent nos lectures, une vie religieuse qui n'est pas très courante dans le monde protestant. C'est la vie monastique telle que le partagent les diaconesses de Reuilly. Voici ce que nous lisons sur la quatrième de couverture. Pourquoi y a-t-il eu quasi-incompatibilité entre la réforme et le monachisme avant que celui-ci ne soit aujourd'hui redécouvert et vécu? C'est sur cette question que s'ouvre ce livre. Des raisons non seulement théologiques, mais aussi culturelles, ont freiné la réforme dans sa progression et son développement. Mais que la réforme ait aussi connu des impulsions secrètes vers la vie communautaire, nous en trouvons le témoignage dans l'histoire mouvementée des diaconesses de Reuilly. On connaît leur communauté à Versailles, à l'hôpital de Reuilly, à Paris, à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, à Livron-sur-Drôme, à Briac, près d'Angoulême, Étole, Arvers et La Rochelle dans les Charentes-Maritimes, à Mazé-Saint-Voix, Haute-Loire et à l'étranger, Cameroun, Polynésie, Norvège. Cette communauté est née voici 150 ans. Elle est aujourd'hui une communauté monastique prospère en France et au-delà des frontières. Outre la description de la vie passée, et présente des diaconesses, le lecteur trouvera dans cet ouvrage un certain nombre de réflexions sur le sens actuel de cette forme de vie religieuse pour l'ensemble de l'Église, comme pour ceux qui ne s'y sentent rattachés que de loin. Je vais lire, pour commencer, la présentation. Gérine Messier, les diaconesses de Reuilly, traduit du néerlandais par Johanna Bichet, en collaboration avec Sœur Évangeline. Les éditions du Cerf, écrit en 1992. Introduction. Ce livre permettra au lecteur de faire connaissance avec l'une des plus anciennes communautés nées sur le sol protestant. L'année 1991 est, pour la communauté de Reuilly, une période importante de commémoration. En effet, il y a un siècle et demi, deux personnes faisaient un rêve qui s'est réalisé. Elles firent ce rêve à une époque bien peu favorable à la fondation d'une communauté monastique au sein du protestantisme, mais telle était leur conviction, perçue comme une vocation. Depuis de nombreuses années, l'auteur est en contact avec la communauté de Reuilly. Ayant eu l'occasion d'étudier en profondeur les sources écrites ainsi que la vie actuelle des sœurs, c'est avec joie qu'il propose aujourd'hui ce livre au lecteur, espérant que sa réflexion et son ouverture seront un apport à la vie spirituelle et œcuménique de notre temps. Nous découvrirons une communauté protestante de femmes qui se consacre à la prière, à la méditation, à l'accueil, outre les tâches diaconales qui ont pris une ampleur considérable au long de ce siècle et demi. Une vie monastique authentique donc, mais qu'est-ce que cela signifie? Ou plutôt, que veut dire authenticité en présence du Seigneur et de son royaume? Celui qui séjourne quelque temps dans la communauté de Reuilly découvre une tradition protestante dans le meilleur sens du terme. Il s'en imprègne, en fait, l'expérience. Mais il essaie de traduire cette authenticité par des mots. Et là, il échoue. On peut bien sûr mettre en évidence quelques détails montrant la différence entre la pratique protestante de la prière et du culte et celle d'autres traditions. Mais là où des personnes donnent comme but à leur vie de prier et de se consacrer aux autres, elles s'approchent non seulement de Dieu, mais également de celles qui ont la même vocation. Après de longs mois d'études et après avoir terminé ce livre, je voudrais dire que le meilleur fruit de la lecture de ces pages et des réflexions qu'elles entraînent serait de nous unir autour des aspirations de la fondatrice, Caroline Malvezin, lorsqu'elle écrit déjà en 1841 « Oh, quand viendra le temps où l'on ne se rappellera des mots protestants catholiques que pour rendre grâce au Seigneur de ce qu'il n'existe plus et où la grande famille chrétienne se désaltérera à la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Fête de la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin 1988. Chapitre 1. Réforme et monachisme. Que le Seigneur soit béni, frère bien-aimé. Me voici pour faire sa volonté. Me voici, j'en ai fini avec le monde. Je l'ai quitté il y a peu d'heures et ces premiers instants de ma nouvelle existence appartenaient à Dieu et à vous. Qui aurait pu penser aussi que, dans ces voies adorables, notre Père nous mettrait au cœur de réaliser une œuvre négligée par la réforme et que, au jour marqué dans son miséricordieux amour, il m'appellerait à la plus noble des tâches, à la plus sublime, à la plus douce des missions. Deux passages d'une lettre datée du 31 août 1841 de la main de Caroline Malvezin à son pasteur Antoine Vermeil. Ensemble, ils allaient être les fondateurs de la communauté des diaconesses de Reuilly. Caroline Malvezin parle sans crainte d'une œuvre que la réforme a tant négligée. Pourquoi y a-t-il eu quasi-incompatibilité entre le monachisme ou la conventuelle et les églises de la réforme avant notre époque qui les redécouvre et qui les vit? Il y a assurément plusieurs raisons à cela. La continuation ou le développement d'un monachisme dans la réforme a été freiné non seulement pour des raisons théologiques, mais aussi pour des raisons culturelles. Fortement freiné, certes, mais jamais totalement arrêté. Il y eut un monastère à Molenbeek-sur-Weser, appartenant à la congrégation des Augustins de Windesheim, qui est passé tout entier à la réforme luthérienne en 1558. La communauté s'est maintenue, a accueilli des novices et a persévéré dans la prière et le service jusqu'à la mort du dernier moine en 1675. L'abbaye de Locum, près de Hanovre, s'était également convertie à la réforme au XVIe siècle. Elle est encore mentionnée au XVIIIe siècle comme une communauté réformée faisant l'objet de plaintes de la part des visiteurs canoniques pour une relâche dans l'observance. Ceci concernait des monastères existants. Mais le piétiste Gérard Terstingen a fondé au XVIIIe siècle à Velbert, dans le Bas-Rhin, un monastère d'hommes réformés qu'il a appelé la Tente T-E-N-T-E, la tente des pèlerins. Je lis une note. François Biot, Communauté protestante, la renaissance de la vie régulière dans le protestantisme. Renouveau communautaire et unité chrétienne à Paris en 1967. Pour le monastère Molenbeek, voire Das Molenbeek, en 1987. Pour Terstingen, Gérard Terstingen, Van Andel écrit que il n'entendait pas fonder un monastère. Il n'a pas écrit de règles et il ne voulait pas un ordre monastique. Mais Van Andel explique cela par le légalisme et la piété extérieure dont Terstingen voyait les dangers. Ce sont justement les éléments qui ont fait dégénérer le monachisme. Au plus profond de lui-même, Terstingen poursuivait le même but qu'ont poursuivi les moines de tous les temps, but que les réformateurs n'avaient pas récusé. Louis Bouilhet, dans « La spiritualité orthodoxe, protestante et anglicane » en 1965. Nous ne parlerons guère de la vie plutôt communautaire que monastique menée dans Desnerhund, située sur le domaine du baron Zinzendorf et berceau des frères Moraves. À part cela, les monastères et les congrégations avaient quasiment disparu de l'univers des protestants. Et pourquoi ? L'attitude des réformateurs eux-mêmes donne lieu à une critique sévère à l'égard du monachisme, sans aller toutefois jusqu'à la rejeter complètement. Quand Luther publie son sermon sur le baptême en 1519, il y développe la façon de vivre ce baptême. On peut le vivre de trois manières, dans la vie conjugale, dans la vie monastique et dans l'état clérical. Ce n'est qu'après avoir été condamné par le pape qu'il rend ses critiques plus acerbes. Au début de 1522, il fait apparaître son traité sur les vœux monastiques dans l'intention de tendre une main fraternelle aux moines défroqués. Sans être une déclaration de guerre, ce traité fut tout de même largement divulgué et devint par là un monument de grande importance. Les griefs de Luther furent sommairement les suivants. La distinction que la théologie monastique établit entre les commandements qui concernent tous les croyants et les conseils destinés exclusivement aux moines et moniales. Le fait que les croyants seraient ainsi divisés en deux groupes et la pensée que les moines voudraient se justifier devant Dieu par leurs œuvres personnelles. Mais les griefs de Luther ne sont pas si violents. Il s'exprime avec considération sur les bons moines, notamment sur Bernard de Clairvaux, qu'il estime profondément. Son objection de base concerne les vœux monastiques, et même là, il est nuancé dans ses critiques. Il parle de vœux sincères auxquels il reconnaît une valeur en opposition aux vœux superficiels, et voudrait surtout situer la vie monastique sur la toile de fond de la liberté chrétienne. Une note. Martin Luther, le jugement de Martin Luther sur les vœux monastiques. Luther montre que la vie monastique est faite pour celui qui cherche à souffrir davantage et désire se préparer à sa mort et obtenir ainsi le fruit de son baptême. C'est donc cela, monachos, être monos pour Dieu. Calvin voit la situation moins clairement. Avec la véhémence polémique qu'on lui connaît, il fulmine contre l'ordre monacal de son temps. Mais lui aussi lui oppose le monachisme traditionnel, sobre dans sa manière de vivre, voué aux études et à la prière, sans que l'obéissance y soit perçue comme une contrainte. Un monachisme qui était une sorte de préparation aux fonctions pastorales. Il considère, en revanche, le monachisme de son temps non seulement comme corrompu, mais surtout comme sectaire et sans aucune utilité. Sectaire, puisque les monastères célèbrent leur propre office séparé de l'unique église et autel du Seigneur, et se nomment, d'après leur fondateur, comme s'il s'agissait d'une étiquette politique. Sans utilité, puisque Dieu a plus d'estime pour une famille gérée avec soin, heureuse et fervente, que pour un moine vivant dans l'isolement. Lui aussi a comme grief principal les vœux perpétuels. Il se rapporte à Cyprien qui conseille de renoncer aux vœux de chasteté s'ils se révèlent trop lourds. Un mariage vaudrait alors mieux que de succomber aux plaisirs irréguliers. Pour la suite de ce livre, il est en revanche très important de souligner ce que Calvin écrit à propos des veuves d'après le Nouveau Testament et qui peut s'appliquer aussi aux diaconesses. Elles étaient choisies, non pas pour réjouir Dieu de chansons ou de barbotements inintelligibles, vivant le reste du temps en oisiveté, mais pour servir aux pauvres au nom de toute l'Église et s'employer entièrement aux offices de charité. Elles ne faisaient point vœu de vivre hors l'état de mariage parce qu'elles pensaient que ce fût un service plaisant à Dieu, mais pour être plus libres de faire leur devoir à la charge qu'elles prenaient. Elles ne faisaient point un tel vœu à la fleur de l'âge, pas avant l'âge de 60 ans. Une note. Calvin, Institution chrétienne, livre 4, chapitre 13. L'indication de 60 ans renvoie à 1 Timothée, chapitre 5, verset 9. Ce qui est primordial pour les réformateurs, c'est l'unité de la communauté. Cette unité repose sur le lien du baptême et des vœux de baptême. Il n'existe qu'un seul type de lien dans la vie chrétienne, c'est le sacrement duquel le Seigneur a scellé les siens. Le baptême est identique pour chacun. Comment donc une minorité connaîtrait-elle d'autres préceptes et un style de vie différent à la majorité des baptisés? Calvin est surtout désireux de faire passer des éléments positifs du monachisme dans la vie des croyants. Toute son organisation de la vie dans la cité de Genève en est un exemple. Une vie sainte imposée à tout croyant, à tout citoyen de cette ville, qu'un abbé bénédictin appelait un jour avec humour le mont Athos réformé. Il se réfère à la situation d'avant la liberté religieuse sous l'empereur Constantin, au temps des menaces et des persécutions. Faire partie de l'Église relevait alors d'une décision coûteuse. Les conséquences pouvaient en être la perte de son poste, un isolement culturel, voire l'emprisonnement, les travaux forcés ou la mort. Ce fut une des raisons les plus profondes qui poussèrent les premiers ermites et moines à continuer de vivre une foi pure et sobre, afin de se constituer ainsi fidèles et martyrs dans un siècle devenu plus permissif. La réforme veut rappeler toute la chrétienté à une vie sainte, à la gloire de Dieu et dans l'obéissance à ses commandements. Cela estompe ou efface toute distinction dans la vocation. Celui qui désire vivre plus intensément à l'image du Christ devra agir au lieu même où il se trouve. Il accomplira fidèlement ses tâches quotidiennes et priera chez lui, en famille, dans la communion de toute l'Église. Une note. La confession helvétique postérieure, 1566, Neuchâtel de la Chouesnesse, 1944, dit ceci. Telles sectes ne sont pas seulement inutiles à l'Église de Dieu, mais aussi très pernicieuses. Par quoi nous ne voulons de tels gens en nos églises, mais enseignons au contraire qu'on ne le doit nullement souffrir, est-ce Église de Jésus-Christ. La suite de ce texte figure sous forme positive dans la confession de foi de l'Église de Zurich en 1938. Ils sont tolérables si, répondant à leur nom, moines, ils sont solitaires, vivent du travail de leurs mains sans être à charge de personne et obéissent en tout lieu aux pasteurs des églises. L'un des articles de Wittenberg, 1536, accord entre Luther et d'autres théologiens de la Réforme sur les modalités de la présence réelle du Christ dans la scène, stipule que, si pourtant certains qui sont aptes à le faire préfèrent vivre dans ces monastères, et si les sentiments et l'adoration y sont purifiés, si les règlements sont indifférentia, c'est-à-dire non obligatoires, alors nous ne les en empêcherons point. Nous croyons quant à nous que beaucoup d'hommes sains et éminents ont ainsi vécu pieusement dans les monastères. Il est même souhaitable qu'il existe pareille communauté d'hommes instruits et saints où soit enseignée pour le bien de toute l'Église la connaissance du christianisme et où de jeunes gens reçoivent non seulement un enseignement doctrinal, mais puissent aussi se familiariser avec la piété par la pratique religieuse des rites. Mais de telle façon qu'ils ne soient pas pris au piège par des vœux qui seraient contraires à leur conscience. La réforme veut rappeler toute la chrétienté à une vie sainte, à la gloire de Dieu et dans l'obéissance à ses commandements. Cela estompe ou efface toute distinction dans la vocation. Celui qui désire vivre plus intensément à l'image du Christ devra agir au lieu même où il se trouve. Il accomplira fidèlement ses tâches quotidiennes et priera chez lui en famille, dans la communauté de toute l'Église. À ces motifs s'ajoute le climat culturel. Je ne veux pas répéter ici ce que d'autres ont longuement écrit sur la progressive libération de l'individu, des structures collectives ressenties comme une contrainte. Chacun cherchait à personnaliser sa foi, sa morale, son style de vie, se soustrayant ainsi à la vigilance de la communauté. Les deux grands courants réformateurs, piétisme et libéralisme, poussaient les fidèles à s'interroger sur leur foi, leur conversion et leur sanctification personnelle. L'attention de la communauté à l'Église, dans toutes ses dimensions, se trouvait comme diluée dans un individualisme exacerbé, dans des opinions et des sensibilités personnelles. Le fait que les grands piétistes furent des serviteurs convaincus de l'Église, voire même des personnalités œcuméniques, y changea peu. On préférait une communauté concrète et visible à une notion d'Église, peu à peu considérée comme communauté invisible de tous les vrais croyants, unie par delà les structures ecclésiales et reconnaissable à une façon de s'exprimer, de vivre et de se comporter. Ceci donna une impulsion très forte à la dimension civile, civique de la vie. La fidélité à l'appel de Dieu fut un des aspects importants d'une bonne conduite. Prospérité et bien-être furent ressentis comme le fruit de cette attitude. Aux yeux des citoyens chrétiens, les irrégularités de conduite et de comportement social étaient prohibées. Raison de plus pour considérer une communauté religieuse comme quasi impensable. Pourquoi se priver d'une multitude de bénédictions, consacrer tout son temps à d'interminables prières et méditations et n'avoir comme seul travail que le strict minimum pour subsister? Celui qui désire vraiment servir Dieu d'une autre manière que pour lui-même peut toujours se vouer aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, agir envers eux charitablement et tenter de leur assurer une existence d'honorables citoyens reconnaissants, repentants et résignés. Il y a tout juste une dizaine d'années, une jeune femme engagée dans sa paroisse s'entendit répondre par son pasteur à sa décision d'entrer chez les diaconesses. « Pourquoi faire cela? Vous faites du bon travail pour le Seigneur ici. Pourquoi perdre tant d'heures en prière ? » Qu'il y ait eu, malgré tout dans la réforme, des impulsions secrètes vers la vie communautaire, c'est ce dont témoigne l'histoire mouvementée des diaconesses de Reuilly.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 2. Histoire de la communauté. Depuis que je suis à Paris, et plus j'y suis, je suis toujours plus affligée de voir de près et dans les plus hautes régions la triste situation de nos églises. Pour ma part, je me suis interdit de m'enhardir à crier ces choses, et je ne me résigne à les crier, mais simplement à les dire fraternellement, avec affection et charité, priant le Seigneur de faire cesser un état de choses qui doit, si Dieu n'y met la main, compromettre l'avenir, l'existence même de l'Église. C'est la lèpre qui souille et dévore tout au milieu de nous que cet esprit d'indépendance et d'individualisme portait à l'excès. Depuis notre foi jusqu'à nos moindres opinions, depuis le gouvernement de notre Église jusqu'à l'administration de nos communautés les plus obscures, depuis la direction de nos troupeaux jusqu'à celle des œuvres les plus humbles, c'est là ce que gâte, entrave et pulvérise tout. L'esprit protestant, avec ses excès, est particulièrement dissolvant. Il faut en convenir, et c'est recueillir de tristes fruits de la liberté d'examen de conscience que cette lutte incessante des libertés individuelles. Antoine Vermeil, 6 février 1841. Les citations de la correspondance d'Antoine Vermeil et de Caroline Malvezin sont faites à partir d'une édition dactylographiée non publiée. Voilà ce qu'écrivait un jeune pasteur, Antoine Vermeil, un an après son arrivée de Bordeaux à Paris pour y prendre ses fonctions. Ces paroles émouvantes nous donnent envie de savoir quelle était la situation spirituelle et religieuse qu'il trouva à son arrivée dans la capitale en mai 1840. En fait, il y a tout juste 40 ans que le protestantisme connaît une certaine liberté. Lorsqu'en 1802, par les articles organiques, Bonaparte avait donné aux églises, autres que l'Église catholique romaine, une modeste possibilité d'existence publique. Une note. Les articles organiques sont promulgués par Bonaparte le 8 avril 1802. Ils reconnaissent officiellement en France les deux confessions, luthérienne et réformée. Les pasteurs deviennent alors des fonctionnaires ayant rang dans la vie civique. Le protestantisme était confiné dans les régions les moins accessibles, surtout dans les Cévennes et dans certaines autres parties de la Provence où il avait résisté à la persécution et à l'oppression. La capitale elle-même ne comptait ni tradition ni communauté protestante. Le seul temple fut, pendant longtemps encore, celui de Charenton, alors grande banlieue de Paris. Mais à cause de l'annexion par Napoléon de beaucoup de territoires, tels que l'Alsace, Genève, sans oublier les Pays-Bas, les protestants commencèrent à affluer à Paris. Certains d'entre eux étaient des descendants de huguenots jadis émigrés, d'autres des notables, des hommes d'affaires, des banquiers, des diplomates. Toutefois, Paris, qui comptait à présent des protestants, n'avait point de temple. L'individualisme y triomphait. L'absence de la plus élémentaire structure rendait l'organisation des plus précaires. Outre le fait que les articles organiques ne reconnaissaient aux protestants aucune organisation nationale et que par conséquent tout incombait aux autorités locales. C'est dans les années 30 que l'influence du réveil pénètre à Paris, en insufflant un solide renouveau de la conscience morale, une nouvelle jeunesse pour le protestantisme. Une note. Le réveil est un mouvement de renouveau spirituel caractérisé par une piété chaleureuse et un zèle missionnaire. Il met l'accent sur la Bible et la personne de Jésus-Christ. Ce mouvement parcourt toute l'Europe protestante dans la première moitié du 19e siècle. De jeunes pasteurs influencés par ce mouvement pendant leur temps d'études à Genève arrivent dans la ville et se mettent au travail dans l'esprit de leur enseignement. L'accent est mis sur l'étude biblique et les sermons sont orientés vers les Écritures. Cela n'était pas évident. La tradition, entre parenthèses, ou plutôt l'absence de tradition, voulait que le sermon soit un exposé pieux ou intellectuel de la doctrine orthodoxe ou des principes libéraux. le texte biblique ne servait que de quelconque point de départ. Le regain de la prédication entraîna un renouveau de la foi. Une chapelle improvisée, rue Thébou, fut pendant 10 ans un centre important du renouveau religieux, animé par la prédication convaincante de Henri Grandpierre, jusqu'au jour où cette même chapelle devint le centre d'un mouvement de tendance séparatiste. C'était le revers de la médaille du réveil. Beaucoup de fidèles, appelés ainsi par leur foi personnelle à une vie nouvelle, négligèrent le sens de l'Église établie et fondèrent à leur convenance des églises indépendantes. C'était la conséquence d'une foi doublée d'individualisme pour laquelle l'Église signifiait un rassemblement de purs, très soudés entre eux, plutôt qu'une communauté historique et sacramentelle, avec tous les points d'ombre que les siècles y ont accumulés. Cette situation fut provoquée une fois de plus par l'absence d'une authentique et solide tradition ecclésiale. En créer une, demander une bonne dose d'imagination et de rénovation, pour ainsi dire, à partir d'un vide. Entre-temps, le réveil exerça une influence positive sur l'évolution de la vie spirituelle. Très rapidement, plusieurs églises sortirent de terre. On engagea davantage de pasteurs, des organisations caritatives et des activités missionnaires furent créées. Les premiers journaux et périodiques protestants virent le jour ainsi qu'un timide début d'organisation nationale. Il ne s'agissait pas d'un synode, mais d'une assemblée d'intérêt et d'évangélisation, du reste sans lendemain. Le réveil avait donc orienté ses efforts vers les églises, jusqu'au moment où, sous l'influence d'Alexandre Vinet notamment, la résultante fut le déchirement et l'apparition des églises indépendantes. C'est dans ce contexte que le jeune Vermeil arrive à Paris. Après quelques mois, il exprime son chagrin à une de ses anciennes paroissiennes de Bordeaux, Caroline Malvezin, dans une lettre devenue historique. Antoine Vermeil et Caroline Malvezin. Antoine Vermeil est né à Nîmes en 1799 d'une famille de huguenots originaire de Picardie. Il fit ses études à Genève, où l'influence du réveil naissant se faisait sentir parmi les jeunes théologiens. Lui-même ne faisait pas partie de ce cercle animé par un officier écossais. Mais il en subit assurément l'influence pour s'y être fait de bons amis. Parmi eux, les frères Monod, Henri Merle d'Aubigné et surtout Louis Valette, qui plus tard deviendra son compagnon et successeur auprès de la communauté des diaconesses. Vermeil fut nommé pasteur auxiliaire à Genève, puis dans la communauté française de Hambourg pendant toute une année. Nous le retrouvons dans la fonction de pasteur à Bordeaux de 1824 à 1840. Il s'était marié avec Louise Pachoud, la fille d'un libraire-éditeur de Genève. Vermeil se révéla être aussi bien un prédicateur entraînant qu'un pasteur d'une grande sensibilité. Il savait traiter des affaires difficiles avec autant de délicatesse que de fermeté. Il apparaissait comme un homme de paix et de réconciliation entre des groupes qui, à Bordeaux également, menaçaient d'éclater. Sa sympathie pour le réveil était orientée vers l'Église. Son œuvre à Bordeaux en fut tout imprégnée. Il n'était pas uniquement au service des besoins religieux de ses paroissiens. Malgré l'attention qu'il portait à chacun individuellement, il ne perdait pas de vue l'Église. Il la voulait davantage communauté de vie et de service qu'organisation homogène de fidèles. Il s'engagea entièrement pour la construction d'un deuxième temple et pour la création d'organisations caritatives et missionnaires. Son ministère a laissé un souvenir impérissable, surtout dans les situations douloureuses. Longtemps après son départ, on entendait encore parler du soutien et du réconfort qu'il apportait auprès de ceux qui venaient de perdre l'un des leurs. Le sort ne l'épargna pas non plus. Sa femme et lui perdirent un fils à Bordeaux. À la suite de demandes insistantes de Paris, il se décide finalement à y répondre positivement, après avoir longuement délibéré et prié. Le 17 mai 1840, il fait ses adieux à Bordeaux et prend la route de la capitale en diligence. 3 jours de voyage. On partage les repas. Vermeil invente des jeux de société, officie même en entonnant joyeusement son psaume préféré « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Il sera installé dans sa paroisse de Paris le 31 mai. Son premier sermon fait clairement comprendre dans quel esprit il entend être son pasteur. « Le but de notre vie et de nos œuvres, dit-il, est la sanctification de nos âmes. » On peut résumer tout l'Évangile en ces termes. Jésus-Christ crucifié pour nous. Cela doit nous conduire à un amour sans partage envers le Seigneur et envers le prochain. Déjà avant son arrivée à Paris, Antoine Vermeil souffrait de la division du protestantisme en France et se demandait comment créer un autre état d'esprit, tout en respectant les convictions et les expériences personnelles de chacun, il souhaitait voir surgir d'un esprit d'obéissance à l'Évangile, un esprit de fraternité nourri de la crainte de Dieu. Il nous dit lui-même que c'est aux environs de 1826 qu'il commença à s'en préoccuper, puis à en discuter pour la première fois lors d'une visite à Paris en 1834. Mais une fois établi dans la capitale et s'apercevant des rivalités entre divers groupes et partis qui opéraient par des organes antagonistes de la presse protestante, il souffrit de cette situation plus directement qu'auparavant. Il sentait également un danger face à l'Église catholique qui organisait ses structures ecclésiales, culturelles et caritatives après les effets dévastateurs de la Révolution. Une autre raison d'ordre pratique s'y ajouta. Une Anglaise quakeresse, Elizabeth Fry, avait impressionné un groupe de paroissiens de la chapelle Thébou. De passage à Paris à 2 reprises, elle leur avait parlé de son travail parmi des prisonnières. Depuis que des organisations catholiques s'occupaient de plus en plus des hôpitaux, des pauvres, des orphelins et des prisonniers, ces dames, elles aussi, désirait s'engager d'une manière ou d'une autre auprès des non-catholiques. Tout se situait sur ce plan de la charité qui caractérise si bien le siècle dernier. Chaque époque trouve son style et son esprit. L'intention était bonne, mais ces dames bourgeoises ne songèrent guère à se mettre elles-mêmes à l'œuvre. Elles voulaient s'engager au titre d'instigatrices et de protectrices. Qui donc alors réaliserait le travail pratique? Il leur vint à l'idée le projet d'un refuge pour femmes et jeunes filles de la prison de Saint-Lazare, mises en liberté provisoire après avoir fait preuve de bonne conduite. Nous avons vu que la prise en compte de cette façon de vivre en commun dans un groupe partiellement fermé n'est pas plébiscité par beaucoup de gens à cette époque-là. Dans le monde protestant, pour les années 30, où l'influence du réveil, une certaine tendance, semble se faire jour. Mais comme cela est mentionné dans la tradition, plutôt l'absence de tradition, ne simplifie pas les choses. L'arrivée des églises indépendantes et la venue de Antoine Vermeil à Paris que nous retrouverons dans la suite, va modifier l'ambiance que nous trouverons dans notre prochaine lecture. N'oubliez pas, je lis pour vous. Une émission de Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DA+, en direct mardi et mercredi à 21h, et rediffusion lundi et mardi à 6h. Vous pouvez les suivre dans le podcast. Et à bientôt, chers auditeurs, pour la suite de notre livre.